Radio Kapi. Oh, Kapi.
À 12h à Kinshasa, 13h à Bunia dans la province de l'Ituri. Mesdames, messieurs, merci de suivre ce journal sur la fréquence de la paix que vous présente Pierrot et la Meji. Dieudonné Nyangasa assure la mise en ordre. Mais voici d'abord les titres. Il est possible de construire la paix dans la province de l'Ituri, notamment par la promotion des dialogues entre les communautés en mettant également l'accent sur la justice. Madame Leïla Zerougui l'a dit ainsi après sa rencontre dans la soirée de ce jeudi avec différentes composantes des couches de la population dans cette province où elle est en visite. Les enseignants réunis au sein du CIECO et Sinecat dans la province du Maniema décident d'élever leur mouvement de grève entamé peu après la rentrée scolaire. Une décision prise au cours de la 3e assemblée générale organisée le 10 novembre à Kindu. Et notre invité, c'est le professeur Moïndo Mwanda, consultant au Centre d'études juridiques appliquées CEJA. Il nous parle de la déconnexion entre les décideurs politiques et les scientifiques qui est l'un des facteurs de la persistance de l'insécurité et du sous-développement à RTC et particulièrement dans la région du Nord Kivu. Vous les suivrez avant la fin de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons d'abord ce journal par l'actualité liée aux consultations menées par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Je suis venu après avoir consulté ma famille politique pour apporter au chef de l'État les désirata de notre peuple. C'est en ces termes que s'est exprimé le député national cadre du FCC Ngoï Kasangi au sortir des consultations présidentielles hier jeudi au Palais du Peuple. Ngoï Kasangi faisait partie du caucus des parlementaires de l'espace Grand Kasaï, toutes tendances confondues. Selon lui, il faut que la paix règne dans notre pays pour lui permettre un développement. Ngoï Kasangi est au micro de Jeff Ngoï.
Notre pays traverse une crise profonde, qu'il était important que nous, élus du Grand Kasaï, nous puissions venir répondre à l'invitation nous adressée par le président de la République. Et comme vous le savez, nous sommes venus, nous sommes les élus représentants de la population. Il était de notre devoir d'apporter au président de la République les désiderata de notre peuple, de l'espace du Grand Kasaï, notamment en ce qui concerne les infrastructures, l'économie, la sécurité et les aspects politiques. Je crois qu'il y a des mémos que nous lui avons adressés, un mémo global et les mémos sectoriels concernant province par province, donc les 5 provinces de l'espace Grand Kasaï. Pour les aspects qui concernent l'Union sacrée, vous connaissez. Bien, moi, je pense que nous devons privilégier la paix en tout état de cause, parce que sans la paix, on ne peut pas construire cette grande nation.
Il y a encore de l'espoir pour trouver des solutions au conflit armé en Ituri. Déclaration faite à la presse jeudi à Bunia par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC. C'était après sa rencontre dans la soirée avec différentes composantes des couches de la population. Selon Leïla Zerougui, il est possible de construire la paix dans cette province, notamment par la promotion des dialogues entre les communautés en mettant également l'accent sur la justice. Elle réaffirme par ailleurs le soutien de la MONUSCO aux côtés des FRDC pour la restauration de la paix durable en Ituri. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC est au micro de Martial Kizabiamungu.
Je n'ai pas d'inquiétude sur le fait qu'aujourd'hui il y a des conflits vraiment graves qui vont générer une crise dramatique. Il y a une volonté chez les uns et les autres de trouver des solutions et d'essayer de gérer cette situation. Mais il y a les risques. Les risques sont là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, ça va, tout est réglé. Il y a des possibilités d'ouverture, de discussion, de pouvoir avancer, de construire la paix de l'intérieur. Les communautés doivent croire que la paix pour l'un, c'est la paix pour l'autre. Bannir le discours de haine, bannir l'exclusion de l'un ou de l'autre. Donc on doit construire la paix à travers l'espoir, à travers la justice, à travers une approche globale. Il n'y aura pas de paix dans l'Ituri, il n'y aura pas de paix dans la RDC si tous, on ne considère pas que la menace, elle nous affecte tous et que nous devons faire face à cette menace ensemble parce que ce qui vous touche va me toucher.
Le commissaire provincial de la police dans le Haut-Katanga déplore la libération de deux bandits des grands chemins, dont un sujet tanzanien. Et à peine arrivés au parquet, sitôt libérés, ils sont allés voler dans un hôtel de la place dans la nuit de lundi au mardi, où ils ont emporté une importante somme d'argent. Le général Louis Segon Karawa demande à la justice de décourager ce genre de comportement qui met la population en insécurité. Il l'a dit ce jeudi au cours d'une conférence de presse. On l'écoute au micro de Jean Gandou.
Monsieur Wabingwa, un sujet tanzanien, et son complice congolais, les jours ils sont arrivés au niveau du parquet, immédiatement ils étaient libérés. Malheureusement, ces personnes, ce même jour, ils sont allés commettre un forfait dans un hôtel de la place avec le trousseau de clés qu'ils avaient à leur disposition. Ils ont pris beaucoup d'argent, mais nous sommes à la recherche de ces deux personnes. C'est au niveau des autorités judiciaire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour décourager quand même ces genres de pratiques, parce que nous faisons le travail pour sécuriser la population, mais quand nous assistons à des comportements comme ça, ce n'est pas du tout digne. Vous savez, la justice, c'est le fondement de l'État. Nous travaillons en parfaite collaboration avec notre justice, que ce soit civile ou militaire, mais des fois, il y a toujours des petits égarements comme ça que nous déplorons.
Notons que ces deux personnes étaient parmi les 28 présumés bandits présentés au commissaire provincial de la police et à la presse le lundi dernier. Au Nord Kivu, le député provincial Prince Kiangui demande au gouvernement d'agir rapidement afin de clarifier les allégations relatives à un massacre des civils qui serait commis au début de ce mois de novembre dans un site minier des Matungu dans le territoire de Walikale. Pour l'élu de cette entité, si les allégations se confirment, ce serait inadmissible. Il ajoute que les auteurs de ces actes devraient répondre devant la justice. Dans un communiqué rendu public hier, le 12 novembre, ces notables de Walikale dénoncent également d'autres violations des droits humains qui sont signalées dans la zone de Pinga depuis la scission du groupe armé NDC rénové. Prince Kiangui le dit au micro des Sifamaguru.
Il est inadmissible qu'au jour d'aujourd'hui, que nous puissions parler des questions des massacres, que de tels actes soient commis vis-à-vis de la communauté Chi avec laquelle nous cohabitons depuis des années. Et il n'y a jamais eu un seul incident avec cette communauté. Je demande à la MONUSCO à bien vouloir appuyer et soutenir le gouvernement congolais en organisant cette enquête-là, parce que je crois que c'est important pour que s'il arrivait qu'il y aurait eu quelqu'un qui se serait livré à de tels actes, qu'il soit identifié et que la responsabilité soit déterminée afin que ce coupable subisse la rigueur de la loi. Je demande en même temps à tous les membres de la communauté de Walikale, à tous les membres de la communauté Chi, je les invite tous à l'apaisement, parce que la question est d'ores et déjà prise en charge par les instances compétentes et ce sont ces enquêtes-là qui vont devoir établir la vérité sur ces faits. Si les faits sont établis, en tout cas, on ne gardera jamais silence. Les coupables vont subir la rigueur de la loi. Mais sinon, vivons dans la paix, dans l'harmonie et dans la cohésion sociale.
Signalons qu'une commission mixte a été dépêchée sur les lieux par l'administrateur du territoire pour vérifier les faits. Elle devrait regagner le chef-lieu du territoire ce vendredi. Pour rappel, des allégations faisant état des tueries d'une centaine de personnes par des présumés combattants du NDC rénové sont rapportées depuis quelques jours depuis Walikale et suscitent des réactions et des indignations. Le dialogue interreligieux sur la paix et la sécurité au sud Kivu tenu à Bukavu du 10 au 12 novembre dernier s'est clôturé hier jeudi. Les travaux du centre protestant Rio d'Engouba ont tablé sur le thème « Retournons à l'éternel ». Ce dialogue qui a duré 3 jours a regroupé les leaders des confessions religieuses toutes tendances confondues et vont dans les territoires de Fizi, Uvira et Mwenga. Selon l'église du Christ au Congo SCC Sud Kivu qui a convoqué ce dialogue, les trois territoires précités constituent l'épicentre des conflits intercommunautaire dans la partie est de la RDC. Au micro de Jean Kassami, Madame Odile Boulaboula, coordonnatrice adjointe du Rio, énumère ici les grandes résolutions de ces dialogues interreligieux. On l'écoute.
Il y a eu beaucoup de recommandations, notamment envers le gouvernement de la République démocratique du Congo, sur l'anéantissement et le rapatriement des groupes armés étrangers par des efforts diplomatiques avec les pays voisins. Parce que les groupes qui sont là, ce sont les groupes burundais, rwandais. Nous estimons que notre gouvernement peut parler avec ces autres États pour essayer d'apaiser la contrée, mais aussi qu'il y ait un contrôle efficace au niveau des frontières nationales a envie de mettre fin à l'infiltration massive des groupes armés étrangers sur notre sol, le renforcement de la diplomatie sous-régionale, régionale, internationale, afin de réduire les effets néfastes de la manipulation des groupes armés étrangers par les États voisins, l'instauration aussi du programme de désarmement, démobilisation et de réinsertion communautaire en faveur des combattants désengagés, et que l'autorité de l'État, qu'elle soit effective dans toute cette zone en conflit. Et nous avons voulu que le gouvernement au niveau national puisse penser à une action d'assistance humanitaire en faveur de tous ces déplacés.
Rendons-nous au Kassai oriental pour parler de ces manifestations des motocyclistes ce vendredi en Boujimaï. Ils ont circulé sur plusieurs artères de la ville. Avec des bâtons en main, ils s'insurgent contre les paiements de la taxe urbaine dénommée péage en ville. Le maire de la ville appelle les motocyclistes à rencontrer les autorités urbaines pour les discussions. Des explications avec Esther Ndalafina.
Quelques dizaines de motocyclistes étaient ce vendredi dans les rues de Mbujimaï, bâtons en main avec leurs motocyclettes qui klaxonnent et d'autres torses nus. Ces motocyclistes ont sillonné les grandes artères de la ville pour manifester leur mécontentement. Des dizaines encore étaient à la recherche des agents percepteurs de taxes pour les molester. Ces conducteurs de moto s'insurgent contre le paiement de 20 000 francs congolais comme taxe urbaine dénommée péage en ville comme souhaite la mairie de Mbujimaï. L'un d'eux, José Kadiata, explique.
Il y avait trois taxes, vignette, patente, contrôle technique. Nous allons seulement de payer le péage en ville sous forme de taxes urbaines. Non, on ne peut pas accepter, c'est trop.
Contacté, le maire de la ville invite les motocyclistes à des discussions. Lui donne Tumba Chapota.
Ce sont des taxes qui sont sur l'ordonnance du président de la République. Une taxe est toujours discutable. Lorsque les amis des motos estiment qu'ils sont en difficulté, ils ne seront pas payés, la meilleure formule, c'est de venir vers nous, discuter avec les services, voir ce qui est faisable.
Signalons que les éléments de la police de circulation routière et les percepteurs des taxes déployés pour le recouvrement forcé ne sont pas visibles sur différents points de la ville. Esther Ndalafina Mbujimaï, Radio Okapi.
13h11 au Nord Kivu, où bientôt une zone économique sera implantée dans la région de Moussienene, dans la partie sud du territoire de Lubero. C'est la confirmation faite par les directeurs du cabinet du ministre national de l'Industrie ce jeudi à Beni, à la clôture de sa mission dans la région. Cette mission consiste à mener une étude minutieuse sur l'état des lieux de la zone de Moussienene acquise pour l'implantation des usines en faveur des opérateurs économiques et la population du Nord Kivu dans le tout prochain jour. Paluku Kavese, directeur du cabinet du ministre national de l'Industrie qui a dirigé cette mission est revenu sur les bien fondés de ces projets. Ces propos sont recueillis par Marc Marofimbo.
Nous sommes venus aussi partager l'expérience de ce que nous sommes en train de mener sur terrain avec la population de Beni et leur donner espoir que la zone économique spéciale de Moussienene sera une réalité. Nous pensons que 2021, ça sera aussi une année de l'action. En tout cas, pour le secteur de l'industrie, nous sommes sûrs que si nous redémarrons le secteur et l'industrie, il y aura du travail pour la population, surtout pour la jeunesse, qui certainement, le fait qu'elle est en train de s'allier à ce malfait, c'est parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Donc l'industrie va permettre à ce que nous puissions chasser cette insécurité. Il est bien entendu que nous avons quitté Butembo jusqu'à Beni ici. Nous avons vu des petits marchés de vente d'ananas, de vente de fruits d'hiver. Nous savons aussi que cette contrée est bien favorable pour le cacao, pour le café. Donc il est bien entendu que la collecte de toutes ces matières premières permettra à ce que nous puissions rendre viable cette zone économique spéciale de Moussienene.
Rendons-nous au Maniema où les syndicats des enseignants du Congo, section du Maniema bien sûr, le SIECO et les syndicats nationaux des enseignants des écoles catholiques, SINECAT, viennent d'élever leur mouvement de grève entamé depuis le vendredi 30 octobre dernier. Cette décision a été prise lors de la troisième assemblée générale organisée le 10 novembre à l'épée Kindouville. Florence Kizalunga pour le reportage.
Les enseignants ont résolu de suspendre leur grève à travers toute l'étendue de la province car leurs revendications sont déjà répondues à 65% au niveau provincial. Ils reprennent et leurs revendications continuent tout en étant au lieu de service. Suivez Cléophas Makangila du SINECAT et Maulu Mwenda Mukute du SIECO.
Venons quand même d'analyser ensemble sous des bases et délibérations par rapport aux différentes revendications. Nous avons obtenu tout au moins 65% et pour pour les restes, ensemble avec les autorités provinciales. Du reste, les revendications ont uni tout en étant au lieu du service.
Quand on a suspendu quelque chose, c'est que directement on entre en jeu. J'espère que les camarades enseignants sont conscients que quand ils ont accepté de suspendre, c'est que les jours suivants, ils peuvent reprendre
cours. Les enseignants n'ont pas bien digéré cette décision. L'un d'eux, Thomas Fataki.
L'enseignement est apolitique et qu'on ne met pas la politique là-dedans. Sinon, c'est sacrifier nos enfants. Nous attendons peut-être au niveau de la province l'arrêté là qui pouvait un peu soulager.
Les enseignants reprennent le cours après un appel lancé par le provède Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
À Kananga, le taux de maladies pulmonaires a connu une nette diminution entre septembre et octobre dernier. C'est la chef des services médecine interne de l'hôpital général de référence de Kananga qui l'a dit ce 12 novembre, journée consacrée à la célébration de la pneumonie. Elle indique avoir recensé 10 cas des maladies pulmonaires sur 100 patients consultés en septembre et 4 cas sur 78 malades recensés en octobre dernier. Pour se prévenir de ces pathologies, elle conseille la population au dépistage volontaire à se méfier du tabac et à éviter surtout de vivre dans la promiscuité. Docteur Alice Ambokoka est au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Au mois de septembre, sur 100 malades que nous avons eu à consulter dans notre structure, il y avait 10 malades qui avaient les problèmes pulmonaires, ce qui fait environ 10%. Et au mois d'octobre, sur 78 malades que nous avons eu à consulter, nous avons eu 4 cas de malades avec pathologie pulmonaire, ce qui fait 5%. Donc, il y a quand même une diminution, il y a une bonne amélioration. Nous avons les pathologies pulmonaires infectieuses. Là, je peux citer la tuberculose, la bronchite. Nous avons les pathologies pulmonaires chroniques. Là, je peux citer l'asthme, la bronchite. Pneumopathie chronique obstructive.
Quelles sont les différentes mesures de prévention de toutes ces pathologies?
Nous avons le mesure générale et le mesure spécifique. Dans le mesure générale, nous pouvons éviter de fumer. Nous devons éviter la promiscuité, éviter la fumée, la poussière, avoir toutes mesures permettant une bonne respiration.
Notons que cette journée est commémorée sous le thème l'année de l'oxygène 2021 en Côte d'Ivoire, dans un contexte sanitaire mondial marqué par la lutte contre le coronavirus.
Actualité internationale.
La France a confirmé ce vendredi 13 novembre avoir tué au Mali Bag Agmoussa, important cadre des Al-Qaïda au Maghreb islamique, dont les noms étaient associés ces dernières années à de nombreuses attaques dans la région. La rumeur enflait depuis 3 jours sur les réseaux sociaux et dans la presse internationale. La ministre des Armées, Florence Parly, a confirmé ce vendredi dans un communiqué la mort de Bag Agmoussa au Mali, dans la région des Ménaka, zone des 3 frontières Mali, Burkina et Niger. La Chine a adressé vendredi Vendredi 13 novembre, ses félicitations à Joe Biden pour son élection à la présidence des États-Unis, près d'une semaine après l'annonce de la victoire du candidat démocrate face à Donald Trump. 6 jours après l'élection de Joe Biden, le président américain refuse toujours de concéder sa défaite. Donald Trump n'est apparu en public qu'une fois depuis samedi dernier lors d'une cérémonie du 11 novembre et se tient loin de la presse contrairement à son habitude. Mais le locataire de la Maison-Blanche inonde de Twitter des théories sur des supposées fraudes qui auraient entaché sur le scrutin.
L'invité.
La déconnexion entre les décideurs politiques et les scientifiques est l'un des facteurs de la persistance de l'insécurité et du sous-développement en RDC et particulièrement dans la région du Nord Kivu. C'est ce que pense le professeur Moindo Mwanda, professeur d'université et consultant au Centre d'études juridiques appliquées CEJA, un centre de recherche de l'Université catholique de Graben de Butembo. Il l'a dit mardi à Radio Okapi à l'occasion de la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement célébrée chaque 10 novembre de l'année. Le professeur Moindo Mwanda s'entretient avec Grace Hamzati.
Professeur Moindo Mwanda, bonjour.
Bonjour.
Le 10 novembre, le monde célèbre la journée de la science au service de la paix et du développement. Quel peut être l'apport de la science dans la quête de la paix et du développement en RDC d'une manière générale et particulièrement au Nord Kivu?
Je vais commencer par la définition de la science. La science, c'est un savoir. Et ce savoir, il porte sur un objet précis. Il utilise la méthode rigoureuse et les résultats que la science produit, ce sont des résultats qui doivent être généralisables. C'est-à-dire qu'un téléphone plus un téléphone, c'est 2 téléphones, que vous soyez à Butembo, à Pékin ou en Italie. Les résultats scientifiques sont aussi falsifiables, publiables et surtout provisoires. Et alors, si c'est cela la science qui produit des résultats généralisables, En tout cas, il n'y a pas d'autre secret de développement ou de la paix s'il n'y a pas la science. Il n'y a pas de science, il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de développement. Comment ces liens se créent-ils? La science va à la recherche des causes des problèmes et tente de les résoudre. Et une fois résolue, elle trouve de nouveaux problèmes. Tente de les résoudre et une fois résolue, elle trouve de nouveaux problèmes, tente de les résoudre et ainsi de suite. Donc le secret de l'évolution, le secret du développement, le secret de l'amélioration des conditions de vie des gens, c'est la compréhension des problèmes et trouver les causes, proposer des solutions.
Et d'après vous, quelles sont les causes de l'insécurité au Grand Nord Kivu en tant que chercheur?
Si vous me posez la question de savoir d'où vient l'insécurité au Nord Kivu, juste de manière brossée, je peux vous dire parce qu'il n'y a pas d'opportunité pour les jeunes, parce que les ethnies s'entremangent, parce que les politiciens manipulent les ethnies pour avoir des postes, parce qu'on n'a pas une armée républicaine, parce que les pays voisins ont tendance à entrer dans nos pays parce qu'ils n'ont pas des ressources chez eux et ils y amènent des groupes armés. Et si je vais au niveau international, c'est parce que le colonialisme n'est pas en réalité fini. Il y a les multinationales des pays étrangers qui viennent nous imposer des guerres injustes ici, des guerres économiques.
Vous êtes consultant au Centre d'études juridiques appliquées, CEJA en sigle. Qu'est-ce que vous avez déjà mené comme étude pour rechercher la paix et le développement en RDC, particulièrement au Grand Nord Kivu, où nous sommes?
Au niveau du CEJA, il y a plein de recherches qui ont déjà été menées pour la consolidation de la paix et la stabilisation de la zone. Les plus récentes, celles que nous sommes en train de finaliser, concernent la construction de la résilience, la possibilité que les gens puissent vivre ensemble malgré le fait qu'il y a eu des dégâts. Et on s'est rendu compte que le vivre ensemble, c'était ça fondamentalement le problème à la base, comme je le mentionnais déjà tantôt. Et on s'est dit, si on rend les personnes résilientes, il y a la possibilité que l'on essaie de vivre ensemble malgré tout ce qui s'est passé. Au niveau du CEJA, dans le cadre de la construction de la résilience, nous avons aussi fini récemment une recherche sur les causes de l'échec du DDR, le processus de démilitarisation, démobilisation et réinsertion des anciens combattants. Et là, nous avons par exemple découvert que c'est la stigmatisation sociale de ces démobilisations qui peut être à la base de leur retour dans la brousse. En d'autres termes, la société n'est pas, vous n'êtes pas prêt à accepter de donner de l'argent à crédit à un ancien combattant. Vous ne pouvez pas accepter qu'il épouse votre fille. Vous ne pouvez pas lui donner une maison à location. Une fois qu'il a été démobilisé, démilitarisé, on veut le réinsérer et il va trouver une société d'abord qui maintient le contexte dans lequel il l'avait quitté, mais aussi dans laquelle on ne va pas facilement l'accepter. Alors il aura tendance à rentrer en brousse. Le CEJA avait fait une autre recherche sur les liens entre les conflits fonciers, n'est-ce pas, et la compromission de la paix au niveau au moins du Nord Kivu.
Malgré toutes les recherches que vous avez déjà faites, l'insécurité persiste, des tueries, des massacres à Beni. Pensez-vous que les recherches qui sont en cours vont aboutir à la restauration de la paix?
Voyez-vous, nous les chercheurs, nous limitons à trouver les causes et à donner des pistes de solutions. Si nos recherches ne sont pas consommées par les décideurs, c'est clair que la situation va rester comme elle est. C'est la raison pour laquelle moi je suis en train de dire, si nos recherches n'aboutissent que lorsque nous sommes arrivés, nous, à la conclusion, et à trouver les causes du phénomène et à proposer des pistes de solutions, c'est là que finit le travail du chercheur. Mais non, si nos recherches doivent produire un impact sur la société, il faut maintenant que les décideurs s'approprient. C'est à quoi nous sommes arrivés comme conclusion, ce que nous avons émis comme recommandation, et alors sur cette base, la société peut changer. C'est pour cela que j'ai lancé déjà auparavant l'appel. Il faudrait que de plus en plus, les décideurs non seulement s'approprient les résultats des recherches que nous menons, de telle manière qu'ils les traduisent, parce que dedans, il y a des recommandations qui sont plus ou moins claires, qu'ils prennent en considération ces recommandations pour que la société change. Maintenant, deuxième volet, pour que nous fassions encore mieux la recherche et que nous contribuions à la résolution des problèmes de sécurité et de développement, il faudrait que les décideurs politiques prennent aussi le soin, n'est-ce pas, de financer nos centres de recherche. Les chercheurs sont là, ils sont en train de travailler. Il manque simplement la connexion entre ce qu'ils trouvent et la possibilité de les traduire en quelque chose de concret en action. Utiliser les recherches dans le cadre des décisions politiques.
Professeur Mwino Mwanda, je vous remercie.
Merci à vous.
Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de ce journal. Alain Irung est à la coordination sous la supervision de Julien Nyamweni. Dieudonné Nyangasa a assuré la mise en onde. Mais n'oubliez pas que l'actualité, c'est sur www.radiokapi.net.